Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue à bord de cette série exceptionnelle qui nous emmène en Inde. Invitée d'honneur du salon Livre Paris en mars dernier, le pays, riche d'une littérature considérable, n'a pas été en mesure, hélas, de participer à la manifestation annulée en raison de la pandémie. Mais si l'Inde n'est pas venue en France, Radio France Internationale est allée en Inde à la découverte de cette scène littéraire extrêmement dynamique de New Delhi à Mumbai, en passant par Calcutta. Ainsi, aujourd'hui et demain, je vous propose deux grands reportages sur le terrain à la rencontre des auteurs, des libraires, des éditeurs, des traducteurs qui font vivre le livre indien dans toute sa diversité. Et pour commencer et saluer les liens qui unissent nos deux pays, un premier volet consacré à la francophilie en Inde.
L'Inde est fascinée par la France depuis toujours. On parle de Molière, on parle de Voltaire, on parle de Rousseau depuis toujours dans de différentes langues. La France fait partie de l'imaginaire indien, depuis toujours. Les Anglais sont là, d'accord, mais la France a une place à part.
Oui, la France a une place à part, nous dit Rajesh Sharma, éditeur indien. Et en effet, ce voyage en Inde a confirmé cet amour de la langue et de la littérature française partagé par un grand nombre de personnes rencontrées sur place. À commencer à Mumbai, Bombay, où se trouve l'un des plus anciens cercles de lecture tourné vers les auteurs français, où j'ai croisé une professeure et d'abord deux étudiantes.
Je m'appelle Ria Onkar, je suis étudiante de l'université de Mumbai.
Et pourquoi tu as choisi d'étudier la littérature française?
Je suis tombée amoureuse.
Et qu'est-ce que vous étudiez comme livre français?
Alphonse Daudet ou les Fables de La Fontaine et aussi Victor Hugo.
Alors je m'appelle Desha, j'apprends la langue depuis 3 ans. Il y avait un choix entre l'allemand et le français. Alors j'ai choisi le français et maintenant je l'adore.
Et pourquoi tu as choisi le français?
Ici il y a beaucoup de gens qui l'apprennent. Il y a la popularité de cette langue est plus que l'allemand, je pense. Et aussi, après ça, j'apprends la musique classique indienne. Donc, il y avait les chansons qui m'intéressent, plutôt la chanson, la culture, les livres, la gastronomie.
C'est... Française?
Oui, la gastronomie française, oui, qui n'aime pas. Alors, les crêpes, on a tout ça. Les crêpes, les baguettes, oui, bien sûr. On a chaque 14 juillet, en fait, au lycée ou à l'Alliance française, on mange les baguettes, les macarons. On joue, on chante les chansons comme Kenji Girac ou Edith Piaf. Je suis...
Je m'appelle Aban Dava, je suis prof de français et traductrice-interprète et je suis secrétaire honoraire du cercle littéraire.
Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce lieu puisque c'est vraiment en Inde et à Bombay un endroit très particulier?
Bien sûr, c'est un lieu magnifique et ça fait partie du patrimoine. Le début était assez modeste.
En quelle année?
En 1886. Et ça a commencé avec un don de Monsieur Petit. Un Monsieur Petit qui était en contact avec les Français. Je pense qu'il avait des affaires avec la France. Et Petit était un sobriquet, on peut dire, parce que toute la famille avait des membres tout petits. Donc les Français ont parlé de cette famille comme « Oh, les petits, le petit était là, le petit était là » et comme ça, c'est resté. Et depuis 1886, c'est la famille Petit qui finance le cercle littéraire.
Une famille de quelle nationalité?
Indienne, mais parsi. Parce qu'à l'époque, c'était les parsis qui s'intéressaient à l'anglais, au français, ou tout ce qui était étranger. Parce qu'eux-mêmes, ils sont arrivés de l'ancienne Perse.
Et donc, ils ont créé ce lieu pour parler?
Oui, alors, quelques Français, quelques parsis se réunissaient ici. C'est pourquoi le premier nom était le Club Franco-Parsi. Je pense que ça a commencé surtout de manière modeste, mais ça s'est développé petit à petit. Et puis les Français qui arrivaient venaient avec des livres où on parlait de ce qui se passait en France au niveau politique, etc. Et puis les autres communautés ont manifesté leur intérêt également. Et comme ça, ils se sont dit, ben, pourquoi pas changer le nom. Et on appelle ça le cercle littéraire parce qu'on reçoit des livres et ils ont commencé à inventorier les livres. Ils ont créé vraiment une bibliothèque magnifique et je peux dire que c'est la plus grande bibliothèque de livres français à Bombay ou peut-être aussi en Inde parce qu'elle compte plus de 8000 livres.
Même tous en français.
Oui, tous en français. On n'a pas de livres en anglais, ni en anglais, ni dans les autres langues. Même les livres religieux des hindous, des musulmans, des parsis ont été traduits. On a la traduction de ces livres religieux.
Donc il y a un intérêt ici pour la littérature française.
Absolument.
À des milliers de kilomètres, un lecteur passionné, originaire de Jaipur, capitale du Rajasthan, a lui aussi fait le choix de la langue française, au point de traduire « La tentation de l'Inde » d'André Malraux en hindi tout seul. Retour sur un parcours hors norme.
Je m'appelle Jagdish, c'est mon prénom, Jagdish Narayan Sharma. Je suis guide par métier.
Guide professionnel, donc vous vous occupez des touristes ici en Inde. Vous parlez français, comme on vient de l'entendre. Est-ce que vous voulez bien nous raconter d'ailleurs quel est votre lien à la France? Pourquoi parlez-vous si bien français?
Ah ben ça je ne sais pas. Mais moi je pense parfois que dans une vie antérieure j'étais français. Et j'ai appris le français tout seul, moi-même, autodidacte.
Mais comment?
Mais avec les livres.
Ici en Inde?
Ici en Inde, chez moi, dans ma ville natale, Udaipur, où est allé Malraux aussi. Mais on ne s'est pas connu à cette époque-là. Moi, j'étais un enfant. Alors, mais je me rappelle de cet événement quand il est venu à Udaipur cette année. Le lac était complètement sec. Donc, il ne pouvait pas descendre dans l'hôtel où il voulait aller, au Lake Palace.
C'était en quelle année, ça?
72.
Donc, en 1972, André Malraux vient en Inde.
Et 72-73, oui.
72-73. Et il vient dans la ville où vous êtes adolescent.
Oui, tout à fait. Mais j'ai jamais entendu, les gens de ma ville ne connaissaient pas le France. Les gens de mon village m'ont même demandé une fois, mais pourquoi vous allez en France? Est-ce que le France est plus grand que l'Inde? J'ai dit non, c'est plutôt plus petit, c'est la taille du Rajasthan. J'ai dit, mais ce n'est pas la peine d'y aller alors. Oui. Donc les gens ne connaissent pas la France ou les littératures françaises, etc. Tout ça. Pourtant, parmi les Indiens, on parle quand même de Les Misérables. C'est surtout ma maman qui m'a parlé de Les Misérables. Dans mon enfance. Je pense que ça, c'est aussi une influence de ma mère.
Et donc, vous avez toujours gardé ce lien particulier et personnel avec la France, la culture française et la langue française. Et on vous a mis au défi de traduire André Malraux et ce texte évidemment important ici, La tentation de l'Inde.
Tout à fait. Et c'est un ami qui est comme un frère cadet à moi, ce qui m'a dit, est-ce que tu ne peux pas le faire pour moi? Je lui ai dit, je le ferai tous. Pourtant, il y avait mes amis français qui m'ont déconseillé de le faire parce qu'ils pensaient que j'allais mourir. Mais bon, je suis bien vivant.
Est-ce que ça a été difficile de traduire la langue, l'écriture d'André Malraux en hindi?
Très difficile. Je vous avoue que c'est très difficile. Ça fait quand même presque 8 mois que je travaille là-dessus. Le problème aussi, qu'il n'y a pas de logiciel pour le traduire. Il faut tout faire à la main. Français et anglais, c'est très facile à faire. Tout le monde pourra le faire. Tout le monde est anglophone, est très anglophone. Donc, ça, ils peuvent le faire. Mais français et hindi est très difficile.
Mais donc, à votre connaissance, jusqu'ici, il n'y avait aucun éditeur indien qui s'intéressait à ce livre d'André Malraux, qui pourtant parle de l'Inde.
Ah oui, et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce qu'il y, y a les Indiens qui ne savent même pas ce qu'il a écrit. Il a écrit des choses très, très émouvantes.
Mais est-ce qu'il connaissait bien l'Inde, selon vous, André Malraux?
Ah oui. Tout ce qu'il raconte, il le sait très, très bien. Par cœur. Il a même touché des sujets que les Indiens n'auraient pas touchés eux-mêmes. Et à tel point que, en le traduisant, parfois, ça me rend les larmes aux yeux.
Par exemple, quel type de sujet il a touché?
Il a touché la mort, par exemple. Beaucoup, beaucoup. Il a parlé de mort en Varanasi. Et à mon avis, c'était très, très émouvant. Et aussi bien la religion, le sens de bouddhisme et le sens de l'hindouisme. Il a très bien compris.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a encore ce lien privilégié entre nos deux cultures?
Oui. Le lien culturel entre l'Inde et la France est très fort.
Et s'il est une région indienne particulièrement francophile, c'est bien le Bengale, à l'est du sous-continent. Là, à Calcutta, se trouve une librairie qui vend des livres en français, et beaucoup de littérature contemporaine d'ailleurs, et un universitaire à qui l'on doit des ouvrages de référence, tels que la publication de la correspondance entre Tagore et Romain Rolland, tous les deux couronnés par le prix Nobel en 1913 et 1915, deux écrivains qui ont noué une amitié franco-indienne enthousiaste à l'image de cet universitaire.
Je m'appelle Chinmoy Guha, je vis à Calcutta en Inde et ensuite je suis professeur de littérature anglaise à l'université de Calcutta. Mais malheureusement j'ai une maîtresse, c'est le français. Parce que je suis tombé amoureux de la France, parce qu'à Calcutta, comme vous le savez, Calcutta était la capitale de l'Empire britannique. Calcutta a ouvert toutes les portes au 19e siècle, à l'Europe. Donc, quand j'étais jeune, c'était peut-être même automatique, cette admiration pour la France. J'admirais la France comme mes amis, mes parents, mes professeurs, mes camarades de classe. Donc, je me suis dit que je devrais apprendre le français. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 21 ans.
Et vous avez appris ici, à Calcutta?
À Calcutta, j'ai jamais eu un professeur de nationalité française. Donc, je travaillais quelquefois 22 heures sur 24 heures. Hein? Je ne dormais pas. Je me couchais parmi les dictionnaires. Avec les dictionnaires, il n'y avait pas beaucoup de dictionnaires non plus. Parce que à Calcutta, au Bengale et en Inde en général, il y a des problèmes. Sauf à Pondichéry peut-être. Il n'y a pas de librairie. Donc, je travaillais souvent dans la bibliothèque, à la maison. Je voyais des films, j'essayais d'imiter les Français parce que ça sonnait si bien à l'oreille. Donc j'essayais d'entrer dans ce monde francophone et je lisais beaucoup. C'était pas facile de trouver des livres français, mais j'avais pas d'argent pour faire porter les livres de la France, mais je faisais mon mieux. Et petit à petit, une belle matinée, les Français m'ont dit que votre français n'est pas très mauvais.
Donc, avec cette fascination, vous en êtes arrivé à devenir traducteur d'œuvres françaises en langue indienne, bengali, oui, et anglais. Par qui avez-vous commencé et pourquoi?
Par le Maxime de la Rochefoucauld, qui est un best-seller au Bengale, à cause de son cynisme tellement moderne. Hein? Donc, l'amour se ressemble au fantôme, c'est ce qu'il a dit. Tout le monde en parle, mais personne ne l'avoue. Donc c'était tellement réel, j'ai admiré les Maxime de la Rochefoucauld. J'ai traduit quand j'étais très jeune, j'avais même pas, j'étais dans la vingtaine. Et ensuite j'ai traduit le dictionnaire des idées reçues de Flaubert.
Et en quelle langue, rappelez-moi?
En bengali, parce qu'au Bengale il y a un public très branché. Donc c'est un avantage que vous ne pouvez pas avoir en dehors du Bengale. Au Bengale, vous pouvez parler facilement sur André Gide, sur Saint-Jean de Pays, sur Derrida. Il y a toujours des lecteurs. Maintenant, je ne suis pas seulement un traducteur, je suis aussi un essayiste. Donc, petit à petit, je suis tombé amoureux de Romain Rolland.
Il faut que vous nous rappeliez le lien entre Romain Rolland et l'Inde.
Romain Rolland est l'auteur le plus adoré en Inde. C'est pas seulement en Inde, mais au Japon, il y a les œuvres complètes de Romain Rolland en 43 volumes. hein, en Chine, en Italie, en Bulgarie, partout, partout en Russie. Romain Rolland est adoré, même s'il est tombé en oubli en France, il est admiré, adoré. Pourquoi est-ce que je me passionne pour les œuvres de Romain Rolland? Toute la génération de mon père, par exemple, avait lu Jean-Christophe de Romain Rolland. Il y avait des exemplaires de Jean-Christophe dans chaque foyer bengali, dans chaque foyer de la classe moyenne. Tout le monde connaissait Romain Rolland par cœur. L'âme enchantée, Jean-Christophe, etc. Après la Première Guerre mondiale, Romain Rolland était fatigué de l'Occident. Il était fatigué de la France. Donc, juste après la Première Guerre mondiale, il a rédigé la déclaration de l'indépendance de l'esprit, qui était signée par Tagore. Donc, ça a démarré, tout ça, et Tagore est devenu un ami de Romain Rolland. Ils se sont échangés des lettres. Tagore est allé voir Romain Rolland en 1921, et ils se sont aimés. Tagore, qui était prix Nobel de 1913, était admiré par les habitants des quatre coins du monde. Mais il a trouvé un ami personnel, c'était Romain Rolland. Pour lui, il n'y avait qu'un ami, c'était Romain Rolland. Ils se sont mis sur la même longueur d'onde. Ils étaient contre le nationalisme, ils étaient les citoyens du monde. Donc, ce grand romancier français et ce grand poète indien sont devenus des amis. Jusqu'à la mort de Tagore en 1941, c'est extraordinaire. Quand Tagore était triste, Rolland lui a écrit une belle lettre où il a dit « Ne soyez pas triste, nous avons bâti notre nid sur l'arbre de l'humanité, l'arbre de l'avenir. » Donc, c'est une correspondance que tout le monde doit lire. C'est tellement pertinent pour tout le monde maintenant, dans un monde qui est maintenant, dans un monde qui s'écroule, qui tombe en poussière. On a besoin de ces gens, de ces icônes.
Moi, je m'appelle Kanchana Mukhopadhyay, je suis une éditrice à Calcutta qui a une librairie aussi qui s'appelle Bingsho Shatabdi.
Une librairie où on trouve donc des livres français. Comment est-ce que vous avez appris le français et pourquoi vous êtes-vous intéressée à la littérature française?
J'ai appris le français, au début j'ai appris le français juste pour lire la littérature française originale. J'ai beaucoup aimé les poèmes de Baudelaire et je voulais les lire en français. Et c'était au début c'était comme ça, j'ai appris le français à l'Alliance française à Calcutta. À l'Alliance j'ai appris lire et écrire, mais j'ai appris à parler quand j'ai travaillé comme une étudiante dans le sud de France, à Aix-en-Provence.
Mais donc, vous vouliez lire Baudelaire en version originale, je comprends. Mais qui vous avait parlé de Baudelaire?
Baudelaire est très connu parmi les lecteurs bengalis parce que c'était traduit par un très grand poète. Mais il a fait la traduction de l'anglais. La traduction de Baudelaire qui était faite de l'anglais en bengali. Mais comme c'était fait par un poète, c'était très populaire parmi nous. À part de ça, ma maman, elle lisait beaucoup la littérature. Donc, elle m'en a parlé de Mallarmé, elle m'en a parlé de Maupassant. Donc, j'ai commencé à lire la traduction au début. Après, j'ai commencé à lire la littérature en français.
Et donc, ensuite, quand vous avez repris cet établissement, qui était donc d'abord une maison d'édition, puis une librairie, il vous a semblé important d'avoir ici aussi des livres en français. Pourquoi?
Oui, parce que comme un élève, nous avons beaucoup souffert parce qu'il n'y avait pas un endroit où on peut trouver les livres français ou bien les dictionnaires français. À ce moment-là, on avait besoin de dictionnaires. Quand nous étions jeunes, on avait besoin de dictionnaires, il n'y avait pas d'Internet. À ce moment-là, on ne trouvait pas les livres français à College Street, qui est notre quartier des bouquinistes. Et quand j'ai pris la charge de cette librairie, je me suis dit qu'il faut garder quelques livres français pour faciliter les élèves qui veulent vraiment apprendre la langue.
Et ce que je vois ici, c'est que vous avez beaucoup de livres en français et beaucoup de livres récents, beaucoup de livres contemporains.
Oui. C'est ça. Parce que je voulais toujours populariser la littérature contemporaine française qui est très, très riche. On a vendu Taher Benzelloun, Michel Tournier et Maupassant et Alexandre Dumas. Ça se vend toujours les classiques. Sinon, on a vendu les poèmes d'André Velter. Et les livres récents, on a réussi à vendre parce qu'il fallait les expliquer qu'est-ce que c'est et les lecteurs, ils achètent. Comme j'ai réussi à vendre Philip Forrest.
Et Shumana Sinha, qui est une auteure indienne, qui écrit en français.
Qui écrit en français et plutôt elle est l'originaire de Bengali. Donc le livre de Shumana que j'ai eu est tout vendu sauf un exemplaire.
Donc ça veut dire qu'ici à Calcutta, il y a des gens qui viennent spécialement chez vous parce que vous êtes la seule librairie française à acheter de la littérature française. Il y a un public indien.
Oui, il y a un public indien, il y a un groupe de lecteurs et la seule adresse pour eux, c'est notre librairie pour les livres français.
Je crois que vous avez aussi beaucoup d'affection pour l'œuvre de Jean-Marie Le Clézio. J'aimerais que vous nous racontiez un peu ce lien spécial que vous avez avec lui depuis une scène un peu particulière qui s'est passée dans la rue.
Oui, oui, parce que comme je cherchais toujours les livres anciens, les livres à l'occasion dans la rue, il y avait une fois, ça fait déjà longtemps, au début des années 2003-2004, je crois, j'ai trouvé une partie d'un de ces livres qui s'appelait Désert. Il y avait 27 pages et j'ai payé seulement 10 roupies pour acheter ça. Et quand j'ai commencé à lire, j'étais vraiment très influencée parce que la description de la nature, c'est incroyable pour nous, pour moi. Et je me suis dit, il faut finir ce livre, quoi.
Et donc plus tard, vous avez proposé ici des livres de Jean-Marie Gustave Le Clézio et qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai gardé ces livres ici et en 2006, au mois d'août, il était venu à Calcutta. On a fait une conférence avec lui dans cet endroit et il était très content. Comme il pouvait parler l'anglais couramment, il pouvait communiquer avec les lecteurs. Il a demandé comment est le niveau de traduction et ils ont répondu qu'on ne dira pas que c'est la traduction. Donc il était très content et après je l'ai invité à la maison et il était venu à la maison. Mais j'ai entendu qu'il est quelqu'un qui est très réclusif, donc ça me donne une autre expérience de l'avoir à la maison et communiquer avec lui personnellement.
Pour finir, retour à New Delhi où nous retrouvons l'éditeur indien entendu au début de cette émission qui incarne à merveille cette passerelle littéraire entre nos deux cultures puisque pour les éditions Actes Sud, il fait découvrir au lectorat français la richesse de la production littéraire en Inde aujourd'hui.
Je m'appelle Rajesh Sharma. Je dirige la collection qui s'appelle Lettres indiennes pour l'édition Actes Sud depuis 1998. Donc ça fait plus de 20 ans. Et l'idée était, en lançant la collection, l'idée était de donner une voix à toutes les littératures de l'Inde, pas seulement celles écrites en anglais, mais aussi en d'autres langues indiennes, parce que le vrai corpus littéraire qui reste largement inconnu en Occident, c'est ce qui est publié en hindi, en bengali, en d'autres langues. Donc, publier de la fiction de l'Inde. Donc, toutes les langues de l'Inde, toutes les voix de l'Inde, et restant quand même limité à l'époque contemporaine. Des gens, soit vivants, soit récents. Donc, les premiers textes sont sortis, je crois, dans l'an 2000. Le choix s'est porté sur trois langues. Le hindi, le bengali et le Malayalam.
Oui. Juste une question, vous vous souvenez quel est le premier titre que vous avez publié?
Le tout premier titre a été celui d'un écrivain hindi qui s'appelait Nirmal Varma. Il est aujourd'hui décédé, mais c'est l'un des grands auteurs indiens ou de langue hindi. Et plus tard, une femme extrêmement importante, aujourd'hui décédée, légendaire, enfin une géante en littérature bengali, qui s'appelait Mahashweta Devi. Et je crois que nous sommes ravis de dire que nous avons, en fait, les traductions françaises, souvent ont servi de tremplin à ces auteurs pour être connus partout. Comme Mahashweta Devi, par exemple, l'auteur bengali que je citais, nous l'avons publié donc en français en 2001 ou 2000, et soudainement, elle était connue en Europe. Donc, parce qu'elle est sortie, elle a été publiée en français, elle a été publiée en suédois, en italien, en plusieurs langues. Donc soudainement, ces auteurs qui étaient extrêmement limités au Bengale sont devenus des auteurs connus internationalement. Extrêmement important.
Est-ce que vous diriez que les littératures en hindi, en bengali et en malayam sont si différentes les unes des autres à cause de la différence de la langue, ou ça reste une littérature des littératures indiennes?
De toute façon, géographiquement, ce sont des littératures indiennes, de l'Inde. Mais il y a une différence, je ne dis pas jour et nuit, mais c'est une différence énorme. Énorme.
Par exemple,
j'ai publié un ouvrage qui s'appelle « Sur les rives du fleuve Mahé » du Malayalam, par un auteur qui s'appelle Mukundan, aussi dans les années de 2000-2001. C'est un auteur qui parle évidemment de sa région, de son pays natal, qui est le Mahé, qui est un comptoir français. Les Français avaient trois comptoirs en Inde, Pondichéry, Mahé et Karaikal. Donc l'Inde était indépendante en 1947. Mais la France n'avait pas quitté ses territoires. Et donc il y a ce qu'il montre, Mukundan, c'est la vie de tous les jours dans ce comptoir-là, qui est sous occupation française, où on parle français, en fait, c'est la langue du comptoir. Mais malgré tout, les gens commencent à dire, si l'Inde est indépendante, pourquoi pas nous? Donc une sorte de rébellion qui se prépare pour expulser les Français. Donc il parle d'une expérience que personne ne connaît ailleurs. Il parle d'une atmosphère, il parle d'une langue, d'une culture que les gens ne connaissent pas.
En 20 ans, qu'est-ce que vous avez vu changer dans cette littérature indienne contemporaine?
Catherine, ce que j'ai essayé aussi, avec ma propre vision forcément limitée, c'est d'essayer de parler d'un pays qui change. Ok, l'Inde change, les écritures changent, la littérature change. C'est pas la même qu'il y a 20 ans, c'est pas la même qu'il y a 10 ans. Je vous cite un seul exemple. Il y a quelques années à Delhi, il y a eu un viol d'une jeune femme atroce, dont toute la presse indienne a parlé, dont les pays étrangers ont parlé. C'est pour moi important aussi de parler de cette violence faite aux femmes. Donc le choix de mes textes a été orienté avec ça. Donc j'ai publié un texte par une femme indienne qui s'appelle Sonia Falero, il y a quelques années, je crois il y a 2-3 ans, qui s'appelait 13 hommes. C'est un court essai, c'est une investigation, c'est une sorte d'enquête sur un viol qui a eu lieu dans une autre partie de l'Inde, pas à Delhi. Donc où elle parle de ça, elle a fait son enquête elle-même. Mais l'idée pour moi, c'était de montrer que les violences faites aux femmes, c'est pas seulement en France ou ailleurs, c'est aussi en Inde, et il faut pas hésiter d'en parler. Je fais pas une attaque, vous savez, à l'image de l'Inde. C'est ce que nous vivons et c'est ce qu'il faut faire. Il faut en parler. L'Inde évolue, la littérature évolue, et j'essaie de montrer cette évolution dans les textes que j'ai choisis.
Ici se referme cette première émission enregistrée en Inde. Et après une escale de quelques heures, je vous invite demain à y revenir pour découvrir la scène indienne contemporaine en compagnie d'auteurs qui écrivent en hindi, en tamoul, en bengali et en anglais, ainsi que des éditeurs et experts. D'ici là, merci à Christine Cornet et son équipe de l'Institut français à New Delhi, et à suivre ce samedi de nouvelles aventures littéraires en Inde.